Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à ouvrir la parole de l'Éternel, le premier texte dans le psaume 90, des versets 1 à 12. Seigneur, tu étais pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre. » Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Ensuite, un deuxième texte, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, des versets 8 à 17. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et un troisième texte, un petit peu plus loin dans Colossiens, au chapitre 4, des versets 2 à 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun.
Une montre sans mouvement.
D'accord, Raymond. Hein.
Sans mouvement, une montre ne peut pas donner l'heure. Pas plus que la Bible ne peut nous parler sans le Saint-Esprit. Et nous comptons sur son œuvre ce matin, encore et toujours, parce que c'est lui qui va nous guider en cette journée. Nous continuons donc une série sur l'Évangile change tout, inspiré du livre de Jackel Crow, hein, ça change tout, l'Évangile transforme ta jeunesse. Éphésiens 5, 8, c'est un texte, Éphésiens 5, qu'on aura sous les yeux, je vous encourage à l'avoir sous vos yeux ce matin, nous dit au verset 8, Éphésiens 5, 8, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » En fait, tous les aspects de notre vie sont appelés à passer des ténèbres à la lumière. C'est ça le changement de l'Évangile. Passer des ténèbres à la lumière. Hein, notre identité, notre histoire, notre appartenance communautaire, notre façon de faire face au péché, nos disciplines, notre croissance, comme nous l'avons déjà vu, sont changées, transformées, guidées, basées sur l'évangile de Jésus-Christ pour celui qui vit dans la lumière. Alors pour entrer dans le sujet du jour, eh bien, vous aurez besoin d'un peu d'imagination. Imaginez que votre banque, donc vous avez un compte en banque, hein, tous là, d'accord ? C'est tous un compte en banque, hein, et que votre votre banque vous mette chaque matin 86 400 francs, donc 86 400 francs à dépenser pendant la journée. Et il n'est pas possible d'en garder pour le lendemain. Mais chaque matin, vous recevrez de nouveau 86 400 francs. Qu'est-ce que vous feriez? Ben, vous irez à la banque chercher cet argent pour la dépenser dans la journée, pour en profiter au maximum de cette belle aubaine. Eh bien, cette banque existe. Et vous êtes son client. Elle a pour nom le temps. Le temps. Chaque matin, elle vous met à disposition 86 400 secondes. Et chaque soir, elle considère comme perdue celle dont vous n'avez pas fait usage. Et c'est tant pis. Il n'est pas possible de recevoir une avance sur ce qui est prévu le lendemain. Et il vous appartient donc de tirer le meilleur profit de chacune de ces 86 000 ou 86 400 secondes. Et bien aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble au fait que l'évangile change ta gestion du temps. Bon, j'aurais pu dire « change ta gestion des 86 400 secondes ». Et le psaume 90, verset 12, Éphésiens 5, 16 et Colossiens 4, 5b sont des fondements et nous allons particulièrement nous arrêter sur le texte d'Éphésiens. Je vous relis juste les trois passages phares, ils sont si jamais sur le texte aussi, sur la feuille. Hein. Psaume 92 qui nous dit « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse ». Éphésiens 5, 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Et Colossiens 4, 5, deuxième partie, « Rachetez le temps ». Alors, voici le menu de ce que nous verrons. Premièrement, nous verrons que le temps est une invention de Dieu. Le temps est une invention de Dieu. Deuxièmement, nous verrons comment gaspiller le temps. Et troisièmement, comment racheter le temps. Alors juste entre parenthèses, hein, comme j'aime le rappeler aussi lorsqu'on discute ensemble après une prédication, c'est que je suis autant à l'écoute que vous ce matin, évidemment, comme chaque fois, et que la gestion du temps, des priorités, des bons choix de ce qu'il faut faire, d'écarter ce qui peut voler notre temps, n'est pas non plus quelque chose de facile pour moi. Alors voilà, je me mettrai à l'écoute, comme vous, de ce que la parole peut nous dire, de ce que nous pouvons aussi en ressortir pour mieux la souligner. Alors premièrement, le temps est une invention de Dieu. Dieu est totalement en dehors du temps. Pas facile à comprendre parce que nous on est dedans. Lui il est complètement en dehors du temps. La Bible nous dit qu'il est éternel, il n'a pas de commencement, pas de fin, enfin il est en dehors de tout cela. Et le temps fait partie de la création de Dieu. En fait il nous a placés dans un contexte de temps afin que nous puissions vivre dans ce contexte. Et afin que nous soyons capables de voir cela, il a créé des signes pour marquer les temps. Regardez dans Genèse, chapitre 1, verset 14, hein, si vous voulez regarder, premier livre, c'est très facile, c'est tout au début, première page quasiment, principe. Vous pouvez avoir un petit doigt dans Éphésiens 5 pour y revenir. Donc Genèse 1, verset 14, il est dit, « Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que soient des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi. » En fait, un tour de terre autour du soleil donne une année. C'est pas l'homme qui a inventé ce temps-là. C'est le tour de la terre autour du soleil qui donne une année. Les phases de lune donnent les mois. On a un petit peu trafiqué le nombre de jours, mais c'est quand même les phases de lune qui donnent les mois. Et la rotation de la Terre sur elle-même donne les jours. C'est pas l'homme qui a inventé cela. C'est Dieu qui a placé ces signes pour nous faire comprendre qu'il avait inventé le temps dans lequel nous vivons. Dieu a réglé notre univers avec ses paramètres qui en sont les facteurs temps habituels, ni plus ni moins, et en passant, qui n'ont pas pu changer. Parce que si on fait un changement dans tout ce système solaire, eh ben il y a plus de vie, enfin il y a différentes choses qui ne fonctionnent plus. Et cela devrait nous aider à ne pas dire « je n'ai pas le temps » ou « j'ai trop de temps ». Parce que Dieu a donné exactement le temps dont nous avons besoin. Comme il donne à la Terre exactement le temps pour tourner autour du Soleil, comme enfin, etc. La question est donc plutôt comment nous utilisons le temps que Dieu nous confie. C'est pas le fait combien il nous en donne, ça c'est juste ce qu'il nous donne, c'est comment nous l'utilisons. En fait, Dieu nous confie le temps. Que nous le voulions ou non, nous utilisons le temps que nous recevons. Nous l'utilisons pour la gloire de Dieu ou pour la gloire d'un autre. Nous sommes tous ici gérants du temps que Dieu nous donne. Tant que nous vivons, nous recevons tous ici exactement le même temps. Que nous soyons en santé ou malade, jeune ou âgé, homme ou femme, ingénieur ou pharmacien, enfin, etc., chacun reçoit ses 86 400 secondes chaque jour. Et nous avons une responsabilité d'intendant face au propriétaire du temps qui nous le donne. Le temps, c'est pas vous qui êtes allé le chercher. Vous le recevez. Et si le péché est venu complètement souiller la manière d'utiliser le temps, l'Évangile nous donne la possibilité de le racheter. C'est ce que nous allons voir. Transformés par le Saint-Esprit, nous allons utiliser le temps d'une manière qui glorifie celui qui nous le donne. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans toute sa création, Dieu fait chaque chose en son temps. En son temps. Dans ce monde créé, rien n'est instantané. Un arbre pour grandir a besoin de temps, tout comme un chat ou tout être vivant a besoin de temps. Même l'œuvre de rachat de Jésus-Christ s'est faite en son temps. Dieu n'a pas fait mourir et ressusciter instantanément Jésus-Christ à la chute de l'homme. Il aurait pu. Non. Ça a pris du temps. Et nous ferions bien de réfléchir à cela dans notre vie. La maturité n'est pas instantanée. La maturité n'est pas instantanée. La sagesse n'est pas instantanée. L'expérience n'est pas instantanée. Il faut du temps, un temps utilisé pour grandir. Ce n'est pas instantané. Ça va nous aider à gérer le temps, justement, en sachant cela. Ce n'est pas instantané, ni la maturité, ni la sagesse, ni l'expérience n'est instantané. Il faut du temps, un temps utilisé à grandir. Et si je dis un temps utilisé à grandir, c'est à dessein. Il ne s'agit pas simplement d'avoir du temps, d'attendre, et le miracle temps va tout faire. Ça, c'est les évolutionnistes qui nous le présentent. Il n'y a pas besoin de savoir comment ça se passe, il suffit d'avoir beaucoup de temps. On met des milliards d'années, et ça marche. Donc n'ayons pas la pensée évolutionniste pour nos relations, pour notre développement spirituel, ou physique, ou intellectuel. Il ne suffit pas d'attendre. Il faut que le temps soit bien utilisé, qu'il soit rempli de dialogue pour les relations, de piété pour l'âme, d'exercice et de bonne nourriture pour le corps, d'études pour l'intelligence. Il suffit pas d'attendre, il suffit pas que le temps passe. Si je me mets assis sur une chaise et que j'attends que le temps passe, mon corps ne sera pas nourri. Enfin, pas besoin de vous expliquer, j'espère. Comprenez? Comme une plante aussi, il ne suffit pas d'attendre. Elle a besoin de terre, d'eau, de soleil. Et elle grandira en son temps selon un procédé bien ordonné. Toute chose en son temps. Et d'autre part, quand on dit ce texte, toute chose en son temps, un texte de l'Ecclésiaste nous vient à l'esprit. Qui nous dit qu'il y a des moments pour différentes choses. Par exemple, vous n'allez pas commencer à éclater de rire en plein temps de deuil. Ou vous n'allez pas vous éloigner de votre époux, de votre épouse le jour du mariage. Alors, j'aimerais simplement lire avec vous Ecclésiaste 3, 1 à 11, que l'on peut bien comprendre sans beaucoup commenter. Ecclésiaste 3, 1 à 11. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plants. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend? J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Le temps est une invention de Dieu. Lui est hors du temps, mais il nous l'y a placé parce que c'est dans ce contexte que nous pouvons vivre. Nous sommes responsables du temps que Dieu nous donne. De par la création et par sa parole, Dieu nous indique que nous grandissons de manière progressive et non instantanée. Nous sommes donc appelés à vivre chaque chose en son temps. Et l'Évangile pénètre notre responsabilité et nous accompagne dans cette progression afin de racheter le temps. Donc cette base posée maintenant, nous pouvons revenir dans le texte d'Éphésiens 5, qui nous donne les éléments principaux des deux prochains points. Un des points centraux de cette prédication nous dit au verset 16, à racheter le temps. Et nous commencerons par voir comment ne pas le racheter. Dans le point suivant, nous verrons comment le racheter. En fait, comment vivre le temps reçu sans l'Évangile ou avec l'Évangile? Alors, on commencera par comment gaspiller le temps. Le texte d'Éphésiens souligne que nous étions sans Christ, sans l'Évangile, et ce que nous sommes en lui. Ce que nous étions sans lui nous indique comment gaspiller le temps. Et voici trois éléments que nous allons souligner. Le premier, nous marchions dans les ténèbres. Nous marchions dans les ténèbres. Deuxièmement, nous pratiquions des œuvres stériles. Et troisièmement, nous étions sans intelligence. On va un petit peu développer cela. Donc premièrement, nous gaspillons notre temps en marchant dans les ténèbres. Ce sera assez simple ce point en fait. Parce que marcher dans les ténèbres, c'est marcher sans lumière. C'est simple ou bien? Marcher dans les ténèbres, c'est marcher sans lumière. Et comme la lumière, spirituellement, intellectuellement, moralement, etc., c'est Dieu, marcher dans les ténèbres, c'est marcher sans Dieu. C'est ne pas tenir compte de la lumière, c'est s'en éloigner. Donc pour gaspiller le temps, il suffit de se détourner de Dieu qui est lumière. Ne pas y prendre garde ou carrément le mépriser. Donc ça, c'est une première manière, et c'est très clair, la parole l'enseigne dans bien des endroits, on a vu ça dans 1 Jean aussi. Donc mépriser Dieu ou se détourner de Dieu, c'est marcher dans les ténèbres. Marcher dans les ténèbres, c'est gaspiller le temps. Deuxième façon de gaspiller le temps, c'est en pratiquant des œuvres stériles. Ou bien, je traduirais aussi en disant, en ne pensant qu'au moment présent. Donc il ne produit pas de fruits, de bons fruits par la suite. Rechercher le plaisir immédiat. Chercher le confort personnel à tout prix. Mais en fait, nous n'emporterons ni les plaisirs, ni notre confort, lorsque nous comparaîtrons devant celui qui nous a donné notre temps. Job dit très justement, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'en retournerai. » En fait, ce sont nos œuvres qui vont nous suivre, pas nos biens. Ce sont nos œuvres qui vont nous suivre, pas nos biens. Alors comment gaspiller du temps? En pratiquant des œuvres stériles, en ne faisant que ce qui nous avantage et rien pour les autres, ou uniquement ce qui pourrait nous faire du bien en retour. Ou pire encore, en ne pensant qu'au moment présent, nous serons tentés par le mal. En ne pensant qu'au moment présent, nous serons tentés par le mal. David, en ne pensant qu'au présent, a fait appeler Bathsheba. Samson, en ne pensant qu'au moment présent, se laissait couper les cheveux. Ou même encore Ananias et Saphira, en ne pensant qu'au moment présent, ont menti au Saint-Esprit. Pensez-vous que si David, Samson, Ananias et Saphira n'avaient pas seulement pensé au moment présent, mais avaient réellement réfléchi aux conséquences de leurs actes, auraient-ils agi de la même manière? Ils ont accompli des actions stériles de tout bien, et le mal en est ressorti. Que de temps gâché! Là, juste, j'ai essayé de pas trop donner de contrepartie pour qu'on voie bien le gaspillage, mais là, je peux pas m'empêcher quand même ici. Jonathan Edwards, dans une de ses résolutions, dit ceci, ça rappellera vendredi soir pour ceux qui étaient là. Résolu de ne jamais rien faire que j'aurais peur de faire si je savais que j'avais moins d'une heure à vivre. C'est une des résolutions de Jonathan Edwards pour contrer ces pratiques d'œuvres stériles. Résolu de ne jamais rien faire que j'aurais peur de faire si je savais que dans moins d'une heure, j'allais mourir. Voici une troisième façon de gaspiller le temps, c'est en agissant sans intelligence. Là, je donnerai juste trois exemples, il y en a beaucoup. Le premier, c'est un mot que certains ne connaissent pas, mais vivent peut-être. C'est la procrastination. Vous avez déjà entendu ce mot? C'est un mot bizarre, donc rappelez-vous-en pour ne pas le vivre, la procrastination. Le petit Robert dit que c'est la tendance à tout remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser. Ou même, Wikipédia ajoute, je trouve intéressant, le retardataire chronique appelé procrastinateur n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. C'est le frère jumeau de la paresse. Remettre à plus tard est une manière de gaspiller son temps. Et c'est malheureusement très courant. Remettre à plus tard ce que l'on peut faire maintenant, c'est gaspiller son temps. Deuxième exemple pratique, c'est l'abus des médias. Voilà, on est en 2019, il y a 500 ans, on parlait pas exactement la même chose. Mais actuellement, enfin même il y a 15, 20 ans, c'était encore un peu différent. Combien de temps as-tu passé la semaine passée sur un écran pour des choses futiles et pas vraiment utiles? Combien de temps? Qu'est-ce que cela nous apporte de voir des allumettes mises en scène qui s'allument, ou une balle de ping-pong qui descend des escaliers, ou des chats qui font des grimaces, ou des personnes qui tapent dans des balles? Enfin, je veux pas gaspiller le temps maintenant. Juste un défi pour les jeunes et les autres. Notez, ça c'est un défi que je vous donne, notez pendant un mois les minutes que vous passez derrière un écran sans que cela soit en rapport avec une activité productive. Notez les minutes que vous passez pour des choses, des loisirs, etc. Et ensuite, additionnez-les et réfléchissez. L'abus de médias, c'est un bon moyen de gaspiller son temps. Et troisième exemple que je donne, c'est les passions dévorantes. Les passions dévorantes. Là, Éphésiens 5 nous parle aussi assez clairement de ces éléments. Éphésiens 5, 12 nous parle des choses qui se font en secret. Mais quelle honte si on me voyait, s'il savait. Si vous vous dites cela une fois là, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes en train de gaspiller votre temps. Vous êtes en train de gaspiller votre temps. Si cette pensée vous vient à l'esprit, vous êtes en train de gaspiller votre temps. C'est vrai que moi, je dois apprendre ça. Quand je commence une BD, j'ai de la peine à m'arrêter. Je vais demander à ma femme. J'ai de la peine à m'arrêter avant d'arriver à la fin. Ou un roman policier. J'ai de la peine. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être une série TV, des résultats sportifs, des romans d'amour, le sexe, le PMU, la bourse, enfin, etc. Lorsqu'on s'y met, on n'arrive plus à s'arrêter. Et nous gaspillons un précieux temps. Alors, pour gaspiller le temps, nourrissez vos passions. Nourrissez-les. Et vous en déborderez. Mais il y a mieux à faire. Affamez vos passions afin qu'elles meurent. Afin qu'elles meurent. Ne plus donner à manger à cette passion afin qu'elles meurent. Après ce deuxième point où vous avez même pas entendu parler de Christ, c'est du gaspillage. Eh bien, nous allons parler de comment vivre avec Christ, comment racheter le temps. Et nous avons de nouveau trois éléments, trois manières que Éphésiens 5 nous aide à voir ici. Premièrement, nous marchons comme des enfants de lumière. Nous marchons comme des enfants de lumière. Voilà un moyen de ne pas gaspiller le temps, de le racheter. Nous comprenons quelle est la volonté de Dieu et nous la vivons. Et nous agissons comme des sages. Donc nous marchons comme des enfants de lumière, c'est versets 8 et 9. Nous comprenons quelle est la volonté de Dieu, verset 17. Et nous agissons comme des sages, verset 15. Marcher dans la lumière du Seigneur, c'est reconnaître sa misère, son péché, sa souillure, qui est éclairée par la sainteté de Dieu. Quand ça éclaire, un garage qui a jamais été utilisé ou qu'on met toujours un peu du schnip, t'as coup, mais la lumière, wow, qu'est-ce que ça éclaire? Mais c'est sale, c'est moche. Et là, faut pas s'arrêter, faut pas éteindre la lumière. Il faut aller vers celui qui peut nous donner le bon balai pour le garage. Bon, c'est un peu différent pour notre vie spirituelle, évidemment, mais vers le seul qui peut nous relever, nous purifier, nous laver. Jésus-Christ qui est venu pour payer le prix de nos fautes, qui a pris la colère que nous méritions, qui a subi le jugement qui nous était destiné, qui purifie ces 86 400 secondes que nous avons parfois perdues entièrement en une journée. Vous savez, prendre du temps pour se repentir et saisir la promesse de Dieu par la foi, c'est certainement racheter le temps. Et ce ne sera jamais du temps perdu. Si vous hésitez à vous repentir d'une faute, c'est que vous hésitez à racheter du temps. Se repentir sera toujours un temps de rachat. Se repentir en croyant que Jésus à payer le prix. Ce temps-là n'est jamais perdu. Donc ça, c'est marcher dans la lumière. Deuxième manière, c'est en comprenant quelle est la volonté de Dieu. Eh bien, quand nous comprenons cela, nous ne cherchons pas premièrement le bien-être, mais la sainteté. Nous ne cherchons pas premièrement le bien-être. On ne peut pas l'emporter, mais la sainteté. La lecture de la parole dans un esprit bien disposé n'est jamais du temps perdu. C'est certainement du temps à racheter. Vous savez, et ça m'a quand même impressionné quand j'ai réfléchi. Jésus n'a pas perdu une seule seconde dans sa vie. Pas une seconde. Pourquoi? Parce qu'il a fait la volonté de son Père à chaque seconde de sa vie. Agir selon les commandements de Dieu, travailler honnêtement et consciencieusement, sans exagérer dans notre temps de travail, ni le minimiser, c'est certainement racheter le temps. S'exercer à la bonté, à la justice, à la vérité, comme nous l'est dit dans Éphésiens 5, 9, c'est certainement du temps racheté. Se souvenir de ce que Christ a fait pour nous, afin que par amour nous agissions pour lui, c'est racheter le temps. Lorsque nous ne sommes pas motivés d'agir ou de nous donner ou de servir, arrêtez et allez vers Christ et observez et méditez sur ce que lui a fait. Et ensuite, encouragés par cet amour immense qu'il nous donne, nous allons à nouveau nous mettre à son service. Mais non pas pour gagner quelque chose, pour racheter le temps. Et ce que vous pouvez faire sans avoir aucune crainte qu'un frère ou une sœur en Christ ne vous voit, est sûrement du temps bien investi. Ce que vous pouvez faire sans avoir aucune peur, aucune crainte qu'un frère ou une sœur en Christ ne vous voit, est sûrement du temps bien investi. Et un troisième moyen pour racheter le temps, c'est en agissant avec sagesse. De nouveau, trois exemples assez simples, hein, agir avec sagesse. Le premier, c'est prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités. Et là, j'aime bien le texte de Ecclésiaste 9:10, parce qu'il nous permet de comprendre cette prise de responsabilité en lien avec notre situation. Ecclésiaste 9:10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » J'aime bien, c'est bien posé ce texte. tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, donc pas avec une force qu'on n'a pas. Et puis si on en a, ben on l'utilise, mais si on n'en a pas, on n'est pas appelé à le faire, évidemment. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tu as quelque chose à faire, n'attends pas. Mets-toi à l'œuvre. C'est ainsi que nous rachetons le temps. Jésus a tout fait en son temps. Il n'a ni trop attendu, ni allé trop vite. À un moment donné, ses frères voulaient dire, va à Jérusalem, là, maintenant, tu fais des miracles et tout. Il dit, non, c'est pas le temps. Puis à un moment donné, il a dit à ses disciples, maintenant, c'est le temps. Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais donner ma vie. Quelqu'un disait, si vous êtes submergé par le travail, commencez par accomplir une première tâche jusqu'au bout, puis la deuxième, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on arrive à bout de ce que nous sommes appelés de faire. C'est ainsi. Terminer ce que l'on commence permet de ne pas avoir 1000 choses qui tournent dans la tête. Et même d'éviter les distractions avant qu'une tâche ne soit terminée, nous évite de longues prolongations. Dieu donne la force pour ce qu'il ordonne et il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc premièrement, prendre ses responsabilités. Deuxième exemple, vivre la générosité. Ça, c'est une manière de racheter le temps. Vivre la générosité. En fait, donner ce que nous avons reçu. Ne pas chercher à faire des choses dont nous ne sommes pas capables de faire. En fait, nous devons investir selon les dons que Dieu nous a donnés. Et nous utiliserons ainsi le temps d'une bonne manière. Nous rachèterons le temps. Si vous cherchez à vivre d'une manière qui est selon le don de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas racheter le temps. Vous allez le gaspiller. Donc en fait, on appelait être généreux. On a reçu ces dons. Ben, c'est ces dons-là qu'on va mettre au service. Et c'est ainsi que nous rachetons le temps. À cinq reprises dans les évangiles, il est dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Alors que celui qui la perdra à cause de Christ la retrouvera. Cela signifie que le temps investi pour Christ, perdu pour Christ aux yeux du monde, nous le retrouverons. C'est du temps bien investi, c'est du temps racheté. Et cela se traduira par différentes choses. Par exemple, par parler de Jésus-Christ à quelqu'un, se mettre au service d'une personne pas forcément appréciée, favoriser la communion, prier avec quelqu'un, confronter son ami avec son péché, se battre pour défendre quelque chose qui est bien, aller faire les nettoyages chez une personne âgée, comme je sais qu'un jeune le fait parmi nous. Tant de choses que l'on peut faire. Planifier en se soumettant à Dieu est le troisième exemple pratique. Planifier en se soumettant à Dieu. Alors là, il y a deux exemples très concrets qui sont très parlants. Le premier, c'est Luc 14, qui nous dit « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Nous sommes appelés à planifier pour savoir, pour être capable de savoir si c'est possible, selon les indications que nous avons évidemment. Mais planifier n'est pas contrôlé, parce que nous allons planifier en étant soumis à la volonté de Dieu. Avec ce deuxième texte de Jacques 4, 13 à 15, qui est aussi important, qui dit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela. Planifier, c'est bien, mais planifier étant soumis à la volonté de Dieu. Et la planification, moi c'est un élément qui m'a poussé en fait en préparant cette prédication à replanifier mes semaines. Voilà, Dieu a déjà agi dans mon cœur avec cette prédication, à replanifier pour justement voir qu'est-ce qui était possible ou pas. J'ai lu un jour une parole assez intéressante qui dit « Ce que l'on fait sans le temps le défait. » Ce que l'on fait sans le temps le défait. C'est intéressant, hein? ça nous indique l'importance de prendre du temps de réfléchir à notre travail. Mais il y a encore mieux, en fait. c'est le psaume 127, le verset 1. Souvenez peut-être de ce psaume qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. » Nous sommes appelés à mettre Dieu dans notre temps. Et Paul Tournier, un auteur thérapeute, a dit un jour, j'aime bien ceci, je vous le cite. « J'ai été longtemps moi-même un agité, courant après mon temps, toujours pressé, incapable de faire la part nécessaire à la vie de mon âme. Depuis que je consacre une heure par jour en moyenne à ma vie spirituelle, et souvent bien davantage, j'ai dû abandonner des activités que je croyais indispensables, mais j'ai trouvé plus de joie et de rendement à mon travail. » C'est interpellant. Et je trouve intéressant d'avoir cette notion de dire « mais je veux mettre du temps pour Dieu ». C'est jamais du temps perdu, jamais. Et une dernière action de sagesse qui demanderait une fois toute une prédication, c'est l'importance du repos dans la planification. L'importance du repos dans la planification. Et le repos, à ne pas confondre avec la paresse, hein. Le repos est aussi une façon de racheter le temps. Un passage m'a souvent encouragé, alors que parfois je souhaite pouvoir travailler toute la nuit sans m'arrêter. C'est quand même ce psaume 127. Alors, ma femme aussi, Dieu l'utilise pour me faire venir me coucher, mais le psaume 127, verset 2, me parle aussi et m'encourage. Parce qu'il dit ceci. On a lu le premier verset tout à l'heure, hein, c'est en vain. Et le verset 2, écoutez bien. Enfin, j'écoute aussi, hein. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Quelle grâce de savoir que Dieu veut que nous ayons notre repos. Lorsque nous avons plus assez de repos, lorsque vous êtes très fatigué, alors ça peut arriver qu'on est fatigué parce que des choses sont difficiles, c'est vrai, mais quand on est souvent ou très fatigué à cause de nos activités, nous devrons nous poser la question si nous ne gaspillons pas notre temps. Parce que ce que nous faisons parfois, nous faisons par orgueil, en voulant accomplir des choses que Dieu ne demande pas. Mais ce qu'il demande, il en donne la force, même si c'est vrai, c'est pas toujours facile. Voilà donc comment racheter le temps, en suivant l'exemple de Christ, notre solide appui, notre référence, hein, c'est Christ notre référence, en marchant dans la lumière, en comprenant quelle est la volonté de Dieu qui nous fait regarder vers l'avenir, et en agissant avec sagesse, responsabilité, générosité, ordre, en regardant à Christ. Et en conclusion, rappelons-nous que chaque jour, Dieu nous donne 86 400 secondes. Si tu as plus de 8 ans, cela fait plus de 252 288 secondes que tu as déjà eues. Et dès 32 ans, tu as dépassé le milliard de secondes. Qu'as-tu fait de toutes ces secondes? Comme tu as encore envie, enfin vous êtes en vie là devant moi, c'est que Dieu va continuer à te donner 86 400 secondes chaque jour. Que vas-tu en faire? Alors si tu ne connais pas l'évangile qui transforme, qui guide, qui libère du pouvoir du péché, qui purifie, qui renouvelle, qui donne un sens, qui te prépare à la gloire, qui purifie chacune de tes secondes de vie, alors ne perds pas de précieuses secondes. Et repens-toi de ton péché. Demande pardon à Dieu d'avoir gaspillé déjà autant de temps. Et crois dans la grâce et la justice acquises par Christ pour tous ceux qui croient en lui, qui purifie toutes ces secondes. Et si tu connais l'évangile, ne perds pas de précieuses secondes à gaspiller ton temps à encore tester la marche dans la nuit alors que tu peux marcher dans la lumière. Sois responsable, généreux, ordonné, t'appuyant sur ton Sauveur. Et que notre prière soit « Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Et je termine avec l'extrait de la prière de l'artisan. Je vais le lire comme prière pour terminer. « Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir un plan sans me tourmenter, à envisager mon ouvrage sans me désoler s'il prend d'autres tournures. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Et que Jésus-Christ soit mon exemple dans tout ce que je fais. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.